Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est. Prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est. C'est l'étude numéro 2. Et le thème sera la bénédiction de ne rien posséder. Il est dit dans Saint Matthieu, chapitre 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Avant que l'Éternel ne fît l'homme sur la terre, il prépara sa venue en créant un monde de choses utiles et agréables pour les besoins et pour la joie de l'homme. Et vous avez compris, quand Dieu parle de l'homme, la femme est automatiquement comprise, qu'il n'y ait donc pas de malentendu là-dessus. Elle servait à l'usage de l'homme, mais devait toujours rester en dehors de lui et soumise à lui. Au centre du cœur de l'homme, il y avait un sanctuaire où personne d'autre que Dieu n'était digne d'entrer. Dieu était en lui et en dehors de lui se trouvaient ces milliers de dons que Dieu avait répandus en abondance sur lui. Mais voilà, le péché a tout compliqué et a fait de ces dons même que Dieu a donné, a fait une source potentielle de destruction pour l'âme. Nos malheurs, elles ont commencé quand nous avons chassé Dieu de ce sanctuaire central et que nous avons permis aux choses d'y entrer. Dans le cœur humain, ce sont les choses qui ont pris le pouvoir. Maintenant, les hommes n'ont par nature aucune paix dans le cœur, car Dieu n'y est plus roi. Mais là, dans cette obscurité morale, usurpateurs obstinés et agressifs se font la guerre pour occuper la première place sur le trône. Ceci n'est pas une simple métaphore, mais c'est l'analyse exacte de nos véritables problèmes spirituels. Il y a dans le cœur humain une racine dure et fibreuse de la vie déchue, dont la nature est de vouloir posséder encore et toujours davantage. Elle convoite les choses avec une passion profonde et tyrannique. Les possessifs, mon et mien, ont l'air d'être très innocents sur papier. Mais leur usage universel est constant et significatif. Ils expriment la nature réelle du vieil homme adamique beaucoup mieux que ne le feraient 1000 volumes de théologie. Ce sont des symptômes verbalisés de notre maladie profonde. Les racines de notre cœur ont poussé au milieu des choses et nous ont en arraché une seule, de peur de mourir. Les choses nous sont devenues nécessaires, ce qui n'était pas le cas à l'origine. Les dons de Dieu ont maintenant pris la place de Dieu. Donc les dons sont beaucoup plus importants que Dieu. et tout l'ordre de la nature est ainsi renversé par cette monstrueuse substitution. Notre Seigneur a fait allusion à cette tyrannie des choses quand il dit à ses disciples « Si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Saint Matthieu chapitre 16, versets 24 et 25. En partageant en fragments cette vérité, afin de mieux la saisir, il semblerait qu'en aucun de nous se tient un ennemi que nous tolérons à nos risques et périls. Et Jésus l'appelle, il appelle cela la vie et le moi. Ou comme nous dirions, la vie du moi. Je répète, la vie du moi. Sa principale caractéristique est la possessivité, les mots gain et profit le suggèrent. Permettre à cet ennemi de vivre, c'est en fin de compte tout perdre. Le répudier est tout donné pour Christ. C'est ne rien perdre en fin de compte, mais préserver toute chose pour la vie éternelle. Voyez-vous, Jésus nous suggère probablement ici que le seul moyen efficace de détruire cet ennemi, c'est le moyen de la croix. Il est dit dans l'Évangile qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le chemin vers la connaissance plus profonde de Dieu passe par les vallées solitaires du dépouillement de l'âme et de l'abnégation en toutes choses. Les élus qui possèdent le royaume, ce sont ceux qui ont rejeté toutes choses extérieures et qui ont déraciné de leur cœur tout désir de possession. Ce sont donc eux qui sont les pauvres en esprit. Ils ont atteint un état intérieur comparable à la pauvreté extérieure d'un quelconque mendiant des rues de Jérusalem. C'est ce que signifie le mot « pauvre » qui est employé par Jésus. Ce pauvre béni, ces pauvres qui ont été toujours bénis, ne sont plus du tout les esclaves de la tyrannie des choses, car ils ont brisé le joug de l'oppresseur et ils y sont parvenus non en luttant, mais en abdiquant. Bien que libres de toute possession, ils possèdent cependant toutes choses. Donc le royaume des cieux est à eux. Permettez-moi de vous exhorter à prendre cela au sérieux. On ne doit pas comprendre ceci comme un simple enseignement biblique à emmagasiner dans sa tête avec une masse inerte d'autres doctrines. C'est une borne sur la route qui mène à des pâturages plus riches. C'est un chemin qui est taillé dans les flancs escarpés de la montagne de Dieu. Prenons garde de ne pas la contourner si nous voulons continuer cette recherche spirituelle. Nous devons gravir une marche à la fois. Et si nous refusons une seule étape, nous arrêtons là toute ascension. Comme c'est souvent le cas, ce principe de vie spirituelle du Nouveau Testament trouve sa meilleure illustration dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans l'histoire d'Abraham et de Isaac, nous avons le tableau dramatique d'une vie de renoncement, ainsi qu'un excellent commentaire sur la première béatitude. Abraham était vieux, comme moi aujourd'hui. Il était à la naissance d'Isaac. Il était assez vieux pour être son grand-père. Et l'enfant est devenu aussitôt les délices de ses vieux jours. Et il est ainsi devenu l'idole de son cœur. Dès l'instant où il se pencha pour prendre maladroitement le petit être dans ses bras, il est devenu l'esclave de son fils, dans un amour ardent pour lui. Et Dieu prit la peine de souligner la force de cette affection. Il n'est pas difficile de comprendre tout cela. L'enfant représentait tout ce qu'il y avait de sacré aux yeux de son père, les promesses de Dieu, l'alliance, l'espoir de toutes ces années et le long rêve messianique. En le regardant grandir de l'enfance à l'adolescence, le cœur du vieil homme était de plus en plus mêlé à la vie de son fils. Son fils représentait absolument tout pour lui. Et c'est alors que Dieu entra en scène pour sauver le père et son fils des conséquences d'un amour excessif. Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Genèse chapitre 22, versets 1 et 2. L'écrivain sacré nous épargne un gros plan sur la souffrance d'Abraham cette nuit-là sur les collines près de Beersheba, quand le vieil homme lutta avec Dieu. Mais en imagination, on peut, avec respect et crainte, voir sa silhouette courbée, sa solitude et son âpre lutte sous les étoiles. Peut-être jamais plus aucune âme humaine ne connaît-elle de souffrance aussi grande jusqu'à ce que celui qui est plus grand que Abraham, Jésus-Christ, eut à lutter dans le jardin de Gethsémané. Si seulement il avait été permis à Abraham de mourir, cela aurait été mille fois plus facile, car il était vieux maintenant, et mourir n'aurait pas été une grande épreuve pour lui qui avait marché pendant tellement d'années avec Dieu. De plus, n'aurait-ce pas été pour lui une dernière douce joie que de laisser ses regards se poser sur la silhouette vigoureuse de son fils qui vivrait pour perpétuer sa postérité et pour accomplir les promesses que Dieu lui avait faites, il y avait bien longtemps, à Ur, en Chaldée. Comment allait-il tuer le jeune homme? Même s'il pouvait obtenir le consentement de son cœur révolté et blessé, comment pourrait-il concilier son acte et la promesse de Dieu? En Isaac sortira une postérité qui te sera propre. Ceci était l'épreuve par le feu pour Abraham, et au milieu même du creuset, il resta ferme. Tandis que les étoiles brillaient encore comme des points blancs lumineux au-dessus de la tente où dormait Isaac, et bien avant que l'aube n'eût éclairé l'est, le vieux saint avait pris sa décision. Oui, il offrirait son fils en sacrifice, comme Dieu le lui avait demandé, et il mettrait sa confiance en Dieu pour qu'il le fasse revivre d'entre les morts. Pourquoi pas? Voilà, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quelle fut la solution que son cœur brisé trouva au cours de cette sombre nuit, et il se leva de grand matin pour mettre son plan en exécution. Il est beau de constater que, tout en se trompant quant à la méthode que Dieu emploierait, Abraham avait cependant correctement percé le secret, oh oui, le secret du grand cœur de Yahvé l'Éternel. Et la solution s'accorde parfaitement avec l'écriture du Nouveau Testament. Quiconque perdra sa vie, est-il dit, à cause de moi, la retrouvera. Dieu laissa le vieil homme, accablé de douleur, aller jusqu'au point où il savait qu'il n'y aurait pas de retraite possible. Et puis, Dieu lui interdit de lever la main sur son fils. Et Dieu lui dit, « C'est bien, Abraham, je n'ai jamais voulu que tu sacrifies vraiment ton fils. J'ai seulement voulu l'enlever du temple de ton cœur, oui, pour que je puisse y régner seul. Je voulais chasser de ton amour tout mauvais penchant. Maintenant le garçon est à toi, il est indemne. Prends-le avec toi et retourne à la tente, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, oui, ton fils unique. » Alors le ciel s'ouvrit et Abraham entendit une voix lui dire, « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et multiplierai ta postérité. Je le multiplierai comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Le vieil homme de Dieu leva la tête pour écouter la voix. Et il se tint là, sur la montagne, fort, pur et grand, un homme que Dieu avait mis à part pour de grandes choses, un ami et un favori du Très-Haut. Maintenant, il était un homme totalement soumis, un homme entièrement obéissant, un homme qui ne possédait rien. Il avait tout mis en son fils bien-aimé et Dieu lui avait tout pris. Dieu aurait pu commencer à travailler en surface dans la vie d'Abraham et puis pénétrer peu à peu jusqu'au centre. Mais il a choisi plutôt d'aller droit au cœur d'Abraham et d'y trancher dans le vif en le séparant de son fils. En agissant ainsi, il économisait temps et moyens. La douleur fut évidemment foudroyante, mais elle fut efficace. J'ai dit que Abraham ne possédait rien. Et pourtant, oui, et pourtant, cet homme à l'apparence pauvre n'était-il pas très riche? Tout ce qu'il avait eu auparavant était toujours encore à lui. Les moutons, les chameaux, les troupeaux, et bien de toutes sortes. Il avait aussi femme et amis. Et mieux encore, il avait son fils Isaac en sécurité à ses côtés. Donc il avait tout. Mais, dans quelque sorte, il ne possédait rien. Chers amis, c'est cela, le secret spirituel. Oui, c'est cela, la douce théologie du cœur qu'on ne peut apprendre que à l'école du renoncement. Les livres d'une théologie systématique négligent cette vérité, mais le sage la comprendra. Après cette expérience amère et bénie, je pense que les mots « mon » et « mien » ils n'ont plus eu jamais le même sens pour Abraham. Le sens de possession qu'il évoque avait totalement disparu de son cœur. Il avait rejeté les choses pour toujours. Maintenant, elles lui étaient devenues extérieures. Le cœur intérieur en était donc totalement libéré. Le monde disait « Abraham est riche ». Mais le vieux patriarche ne faisait que sourire à ces mots-là. Il ne pouvait pas leur expliquer, mais il savait qu'il ne possédait rien et que ses trésors étaient intérieurs et absolument pour l'éternité. Il ne fait aucun doute que s'accrocher à la possession des choses est une des habitudes les plus nuisibles. C'est parce que cette habitude est si naturelle qu'on y voit rarement du mal. Mais ses conséquences sont et peuvent être tragiques. Nous avons souvent de la difficulté à abandonner nos trésors au Seigneur, craignant pour leur sécurité. Ceci est spécialement vrai quand ces trésors sont des parents aimés et des amis. Cependant, nous ne devons pas avoir de telles craintes. Notre Seigneur n'est pas venu pour détruire, mais il est venu pour sauver. Tout ce que nous lui confions est en sécurité, mais tout ce qui ne lui est pas confié ne peut être réellement en sécurité. Donc, nous devrions aussi lui remettre nos talents et nos dons. Nous devrions les reconnaître pour ce qu'ils sont, des prêts que Dieu nous accorde, et ne jamais les considérer de quelque manière que ce soit comme nous appartenir, comme nous appartenons. Nous n'avons aucun droit de revendiquer le mérite de capacités particulières, pas plus que nous n'avons le droit de nous attribuer le mérite de beaux yeux bleus ou de bons muscles. Car qui t'a fait différent des autres? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Le chrétien a l'esprit suffisamment éveillé pour se connaître le moindrement repérable en lui les symptômes de ce désir de possession, et il sera attristé de les trouver dans son propre cœur. Si le désir qu'il a de Dieu est assez fort, il désirera y remédier. Mais que devrait-il faire? Que devrait-il faire au juste? Eh bien, tout d'abord, il devrait renoncer à se défendre lui-même et ne pas essayer de se justifier à ses propres yeux ou devant l'Éternel. Quiconque assure sa propre défense n'aura que lui seul pour défenseur, et personne d'autre ne le défendra. Mais qu'il vienne, oh oui, qu'il vienne sans défense devant Yahvé l'Éternel, et il aura pour défenseur Dieu lui-même. Que le chrétien qui recherche sincèrement Dieu foule aux pieds les embûches et les séductions de son cœur mauvais, et qu'il insiste pour avoir avec le Seigneur des relations franches et ouvertes. Ensuite, il devrait se souvenir qu'il s'agit bel et bien d'une affaire sainte. Autrement dit, la traiter de façon inconsidérée ou sans y attacher d'importance, cela ne suffira pas. Alors, qu'il vienne simplement au Seigneur avec la ferme résolution de se faire entendre par lui, qu'il insiste pour que Dieu l'accepte en entier, pour que Dieu enlève les choses de son cœur qui l'encombrent, et qu'il vienne y régner, que Dieu y vienne y régner avec puissance dans son cœur, âme et esprit. Il se peut qu'il aille à être précis et qu'il doive nommer les choses et les gens par leur nom, un à un. S'il agit de façon suffisamment radicale, il peut réduire le temps de son épreuve à quelques instants plutôt que de la subir pendant des années, et il peut entrer dans le bon pays bien avant les frères plus lents, qui prennent soin de leurs sentiments et qui insistent sur la prudence trop grande qu'on doit mettre dans nos relations avec Dieu. N'oublions jamais qu'une telle vérité ne peut être apprise par cœur comme on apprendrait les faits de la physique. On doit la vivre avant de pouvoir la connaître réellement. Nous devons vivre dans notre cœur l'expérience difficile et amère d'Abraham si nous voulons connaître la bénédiction dont elle est suivie. l'ancienne malédiction ne disparaîtra pas sans souffrance, car le vieil homme cupide qui est en chacun de nous et également en moi n'est pas du genre à courber la tête ni à s'effacer à notre commandement. On doit donc l'arracher de notre cœur, comme on arrache une plante du sol. On doit l'extraire dans la douleur et dans le sang, comme une dent de la mâchoire. Donc, il faut l'expulser de notre âme avec violence, comme Jésus-Christ a chassé les marchands du temple. Il faudra de plus nous armer contre ces supplications pathétiques et reconnaître qu'elles ont leur source dans notre apitoiement sur nous-mêmes. Et ça, c'est un des péchés les plus répréhensibles du cœur humain. Donc, chers amis, si nous voulons vraiment connaître Dieu dans une intimité croissante, nous devons marcher dans cette voie du renoncement. Et si nous appliquons résolument à nous attacher à Dieu, il nous fera tôt ou tard passer par cette épreuve. Quand Abraham a été éprouvé, il ne savait pas à ce moment-là qu'il s'agissait bel et bien d'une épreuve de sa foi. Pourtant, il avait choisi une autre voie que celle qu'il a choisie. Toute l'histoire de l'Ancien Testament aurait été totalement différente. Dieu aurait sans doute trouvé l'homme qu'il lui fallait, mais pour Abraham, la perte aurait été tragique au-delà de toute expression. Et c'est ainsi que nous serons menés un à un au lieu de l'épreuve, et il se peut que nous n'en sachions pas l'heure exacte. En ce lieu, il n'y aura pas une dizaine de choix possibles pour nous, mais un seul choix et une seule alternative. Tout notre avenir dépendra de ce choix-là. Chers amis, prions. Père, je veux te connaître, mais mon cœur lâche, a peur de renoncer à ses jouets. Je ne peux m'en séparer sans un saignement intérieur, et je ne veux pas essayer de te cacher la terreur que m'inspire cette séparation. Je viens en tremblant à tes pieds, mais je viens quand même. S'il te plaît, déracine de mon cœur toutes ces choses que j'ai chéries si longtemps et qui font maintenant partie de ma vie, afin que tu puisses entrer en moi et y habiter sans rival. Alors, tu rendras glorieux le sol que tu foules. Alors, mon cœur n'aura pas besoin du soleil pour y briller, car tu seras sa lumière et il n'y aura plus de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et chers amis, j'aimerais maintenant vous transmettre quelque chose que j'ai reçu dans le cœur de vous donner pour vous fortifier moralement, mais aussi en même temps pour votre éducation personnelle. Écoutez bien. Seigneur, je voudrais marcher avec toi. Regardez donc Jésus. Jésus mesure son pas au vôtre, comme le fait un père, comme le fait une mère pour son enfant. C'est bien pourquoi le compagnonnage entre vous et Jésus-Christ, être fréquemment silencieux, parce que vous n'êtes pas encore en état de supporter le poids de toute la vérité que Jésus-Christ a le grand désir de vous faire entendre. Pourtant, si vous ne pouvez supporter encore ce que Jésus a à vous dire, sa seule présence vous amène à vous dépasser vous-même, à croître dans la grâce et dans votre faculté de comprendre. C'est ainsi qu'avec le repos promis à ceux qui viendront à lui, vous trouverez effectivement la force d'âme qui va de pair avec le sentiment de sécurité que éprouve celui et celle qui se sait aimé. Et maintenant, je vais essayer de vous transmettre quelques chants d'un très lointain passé, figurez-vous, 1952. Oh là là, j'étais un jeune homme. J'avais enregistré cela à Londres, à l'auditorium de Moody. Et je souhaite que l'Esprit Saint vous communiquera par ces quelques chants, quelque chose dans votre âme, cœur et esprit. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Et maintenant, essayons de vous donner ces quelques chants.
I'm holding up the blood stain, burning it for my Lord. Well, I never get tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward. Well, I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the blood stain, burning for my Lord. Well, I never get tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh, yeah, to get my reward. will. It's a true foundation. I'm holding up bloodstain, burning for my Lord. But I'll never get tired, tired, tired of working on the building. I'm going up to heaven, so heavily in my reward. I'm reward for the building. It's a true foundation. I'm holding up bloodstain, burning for my Lord.